Bonjour tout le monde, c'est Germain Delmotte, étudiant en master en journalisme de l'ULB. Je vous souhaite la bienvenue dans notre émission Histoire de savoir, que j'aurai l'honneur de vous présenter en compagnie de Simon Ochoa. Salut Simon.
Salut Germain.
Alors Simon, aujourd'hui on va parler d'un thème qui est à mon sens assez peu traité dans les médias traditionnels, c'est celui de la dépendance aux drogues. Alors pour ça, on s'est basé sur une conférence organisée justement par un professeur de l'ULB, Alban de Kerckhove d'Exarde. On a assisté à sa conférence qu'il a intitulée « Des souris et des hommes » avec une petite référence que les plus cinéphiles d'entre nous auront remarqué. Alors pour revenir sur le thème de la dépendance aux drogues, qui n'est pas un sujet facile, je voulais te demander, tu sais, là par exemple on est entre nous, est-ce que toi Simon, t'aurais une petite anecdote, un petit truc, un petit rapport à ce sujet-là ?
Alors moi personnellement, pas directement non. Je me suis jamais considéré comme quelqu'un d'addict on va dire. J'ai mes petits péchés mignons, hein, comme tout le monde.
T'as une petite addiction ?
Ah, j'ai un petit truc. Peut-être pas une addiction, mais j'adore les chips. Voilà, je te le dis.
Ouais, c'est pas une drogue, mais c'est vrai que c'est...
Non, mais bon, voilà quoi. Je sais que des fois, j'en abuse un peu, mais bon, voilà, ça reste léger. Et donc voilà, je sais qu'il y a des personnes qui ont vraiment du mal avec ça. Toi, tu...
Je te rejoins un peu, parce que le sel, c'est une drogue, hein. C'est une vraie drogue pour le corps. Les effets sont un peu pareils que ceux des drogues dures ou douces même, donc... Donc c'est vrai que je pense qu'on a un peu tous une addiction, c'est pour ça qu'aussi ce sujet va être intéressant, je pense. On va voir comment est-ce que ça s'applique sur le corps, etc. Mais moi c'est vrai que personnellement, j'ai jamais expérimenté ça.
Ouais, parce que les seules expériences que j'ai pu avoir, c'est que j'en ai entendu parler autour de moi, tu vois l'impact que ça peut avoir sur les gens, notamment au lycée. Moi je voyais des potes à moi qui arrivaient, qui fumaient pas mal et qui arrivaient plus à s'arrêter, tu vois, ils devaient s'endormir avec un joint.
J'avais un pote tout pareil.
Voilà, ce genre de situation, c'est sûr que c'est toujours un petit peu compliqué, quoi.
Ouais, mais ça fait assez peur, hein. Moi aussi, j'avais un ami qui fumait beaucoup, et c'est vrai que ça peut parfois poser quelques soucis en termes social ou même d'un point de vue personnel, comme tu disais, pour s'endormir, etc.
Ouais, c'est sûr. Et d'ailleurs, justement, c'est pour ça qu'on a voulu en savoir plus. Et donc, pour en comprendre davantage sur toutes ces questions, on a demandé à un expert qui consacre sa carrière à comprendre ce qui se passe dans notre cerveau quand on devient justement dépendant. Alban de Kerckhove d'Exarde est directeur de recherche au laboratoire de neurophysiologie de l'Université libre de Bruxelles. Il est aussi président de la Société belge de neurosciences. C'est l'un des grands spécialistes belges du cerveau et de ses dérèglements. Alors lui, ce qui l'intéresse, c'est une zone précise du cerveau impliquée dans ce qu'on appelle le système de récompense. Donc c'est ce mécanisme qui nous pousse à répéter ce qui nous fait du bien. Alors dans l'addiction, ce système, il est en quelque sorte détourné. Le cerveau, il fonctionne plus normalement et c'est là que la dépendance s'installe. Sa grande question de recherche, c'est pourquoi certaines personnes basculent dans l'addiction et d'autres pas ? Il travaille notamment sur la façon dont certains gènes peuvent rendre certains individus plus vulnérables que d'autres face aux drogues. Ses travaux ont été salués au niveau international, avec notamment l'obtention de la prestigieuse chaire AXA pour la recherche, consacrée aux mécanismes impliqués dans les addictions. Et son constat est sans appel, l'addiction est une maladie qui fait plus de morts que tous les cancers réunis. Et justement, notre journaliste Salma Menkor est allée à sa rencontre.
Donc bonjour, aujourd'hui je me retrouve avec Monsieur Kerckhove. Est-ce que vous pouvez d'abord commencer par vous présenter et parler un petit peu de ce que vous faites dans la vie ?
Alors, je suis directeur de recherche au FNRS et professeur à l'ULB. Et je suis chercheur fondamentaliste, c'est-à-dire que j'essaye de comprendre à l'aide de modèles animaux quels sont les circuits, quels sont les gènes qui peuvent être impliqués dans la dépendance aux drogues et d'autres modèles impliqués dans d'autres maladies neuropsychiatriques.
On entend souvent parler de la drogue comme un problème de société, mais vous, en tant que neuroscientifique, comment définiriez-vous réellement l'addiction ?
La définition de l'addiction, en fait, est assez simple. C'est la prise et la recherche compulsive de drogue malgré les conséquences néfastes. Donc c'est l'aspect de conséquences néfastes qui est important, c'est-à-dire que on continue à prendre quelque chose alors qu'on sait très bien que ça va avoir des conséquences en termes de santé pour la personne ou en termes de l'environnement, pour la famille et ce genre de choses.
Et pendant votre conférence, vous expliquiez que la dépendance est une maladie chronique du cerveau. Mais pourquoi est-ce important de changer notre regard sur les personnes dépendantes ?
Parce que il y a un peu trop souvent cette idée, commune de se dire que les personnes qui sont dépendantes, en fait, c'est de leur faute. Ils n'avaient qu'à pas essayer. Et tout, je pense que personne qui m'écoute ici ne peut prétendre n'avoir jamais essayé une cigarette ou de l'alcool ou autre chose. Et suivant nos bagages génétiques, donc les gènes qu'on a reçus de nos pères et notre mère, ainsi que l'environnement dans lequel on a vécu, modèle notre cerveau de telle sorte à ce qu'il y a des gens qui sont plus à risque de devenir dépendants que d'autres. Donc il n'y a pas de responsabilité par rapport au fait que vous soyez à risque ou pas à risque. Et que l'on prétende que des gens sont responsables de leur addiction, pour moi, n'a aucun sens. C'est une maladie chronique du cerveau et qui doit être traitée comme telle.
Et aujourd'hui, encore beaucoup pensent que c'est vraiment juste un simple manque de volonté de guérir. Est-ce que les neurosciences répondent à cette idée-là ?
Ben non, justement, je dis souvent, est-ce que ça viendrait à l'idée de quelqu'un qui est malade de la grippe, mais une vraie grippe, hein, celle qui vous cloue au lit pendant une semaine, de lui dire après deux jours, ben, lève-toi, ça va aller mieux. C'est aussi idiot de faire ça que de dire à un déprimé, lève-toi et va dehors et tu iras mieux. Ou à un déprimé, ou à un drogué, arrête de prendre ta drogue. Il y a un vrai piège qui s'est mis en place qui fait que la personne a une compulsion à vouloir prendre sa drogue malgré les conséquences néfastes qui sont sa santé, qui sont sa désocialisation, qui sont le fait de, je sais pas, frapper ses enfants, sa femme ou ce genre de choses.
Et on entend souvent un peu partout sur les réseaux sociaux, surtout en ce moment, parler de dopamine comme l'hormone du plaisir. Mais vous expliquez que c'est plus complexe que ça. En fait, quel est réellement le rôle dans le cerveau en fait, de cette dopamine ?
Ben bon, la dopamine est un neurotransmetteur qui est utilisé tous les jours par notre cerveau. Et donc la dopamine fait deux choses. Donc c'est, par exemple, la maladie de Parkinson est une perte spécifique de neurones dopaminergiques qui amène le patient qui souffre de maladie de Parkinson à avoir des difficultés de locomotion. Donc c'est un neurotransmetteur qui en fait facilite la locomotion. En termes de système de la récompense, qui est le système qui est piraté par la dépendance aux drogues, c'est le système qui amène à renforcer un comportement. Et la libération de la dopamine vise à renforcer le comportement. Et donc le problème avec l'addiction, c'est que toutes les drogues à dépendance augmentent artificiellement cette libération, en fait, concentration de dopamine dans le cerveau. Et notre cerveau interprète ça comme « je renforce le comportement ». Et donc, la prise de drogue. Et donc, la dopamine est ce neurotransmetteur qui facilite la récompense ou qui facilite le mouvement, mais en aucun cas le neurotransmetteur du plaisir. Les neurotransmetteurs du plaisir sont plutôt des neuropeptides qu'on appelle les neuro-opioïdes, qui sont, eux, plutôt liés à la notion de plaisir en tant que tel.
Vous parlez de plaisir et pendant la conférence, vous avez souvent parlé de récompense, système de récompense. Et donc, pourquoi les drogues ont-elles un impact aussi puissant sur le système de récompense par rapport donc aux récompenses naturelles comme la nourriture ou par rapport aux interactions sociales ?
Eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu me donnes l'exemple de nourriture ou d'interaction sociale, ce sont des récompenses naturelles. Ok ? Et donc, il y a un certain degré de libération de dopamine qui vise à renforcer effectivement l'interaction sociale ou le fait de manger, etc. Le problème des drogues, c'est que, quelles que soient les conséquences, elles augmentent la libération de dopamine, quoi qu'il arrive. Et donc, en fait, ça pirate le système, ça le rend plus efficace, puisqu'il n'y a plus cette évaluation a posteriori des conséquences. Puisque même si, je ne sais pas moi, je suis ivre-mort et puis que je vais me mettre à vomir, par exemple, qui est potentiellement négatif, eh bien, l'augmentation de dopamine a quand même eu lieu avec l'alcool et il va y avoir ce court-circuitage du système qui, habituellement, dans une récompense naturelle, va évaluer, va se dire « Ouf, les conséquences de mon interaction sociale est positive, donc je vais renforcer cette interaction sociale-là. » Eh bien, les drogues ne font pas ça parce qu'elles piratent ce système.
Et vous parlez de piratage et de certains Enfin, est-ce qu'on peut expliquer, en fait, que, comment vous pouvez expliquer plutôt que certains souvenirs, dont vous en avez parlé en conférence, une odeur, un mot, un geste, peuvent provoquer une rechute? Mais en fait, comment ça s'explique concrètement? Comment ça se fait?
Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'au moment où on prend sa drogue, on n'a pas que le système de la récompense qui fonctionne. D'accord? Donc il y a aussi ce qu'on appelle la mémoire déclarative, donc la mémoire consciente, c'est-à-dire si je dis maman, il y a tout le monde qui m'écoute, enfin la plupart des gens qui m'écoutent qui ont une image mentale quand je dis maman. Et en fait, quand vous prenez de la drogue, il y a tout un environnement. Donc il y a des gens avec vous, il y a le moment où, en prenant l'exemple de la cigarette du matin, bah, c'est généralement on a pris un café, etc. Donc il y a tout un environnement, ce qu'on appelle mnésique pour la mémoire, qui entoure cette prise de drogue. Et donc tout c'est, et qui est de la mémoire consciente ou déclarative, et donc en fait c'est, je dirais, ces épisodes mnésiques-là sont aussi emmagasiné en même temps que la prise de drogue. Et donc, par exemple, pour les gens qui prennent des opioïdes par injection, eh bien, l'aiguille qui s'enfonçait dans les veines, eh bien, ils s'en souviennent très bien. Et donc, arriver chez un médecin, par exemple, pour se faire faire son vaccin, et le médecin, il reste une aiguille, une seringue avec une aiguille visible, est un déclenchement conscient, mnésique, de se dire, tiens, ça, c'était quand je prenais de la drogue. Et donc, de déclencher une envie pratiquement irrépressible de vouloir en reprendre.
Pour passer à un autre volet, car vous avez été très clair jusque-là, pour passer plutôt au volet expérimental sur les souris, beaucoup de personnes aujourd'hui ne comprennent pas forcément pourquoi les souris sont-elles vraiment utilisées pour étudier les mécanismes de l'addiction chez l'humain. Pourquoi une souris et pas un autre animal, par exemple?
Alors, en fait, on peut utiliser la souris, mais on peut faire certaines choses aussi, c'est la mouche, parce qu'il faut trouver un animal qui a un système de la récompense. Donc, il est possible, il y a des gens qui ont fait de recherches chez la mouche. Alors, c'est possible pour, par exemple, l'alcool, parce qu'en fait, les mouches, les petites mouches qui sont au-dessus de vos plateaux de fruits que vous voyez en été, c'est souvent parce qu'en fait, il y a un fruit qui pourrit un peu. Et dans cette pourriture, c'est parce qu'il y a des levures qui fermentent, et donc il y a de l'alcool, et elles sont attirées par ça. Okay, donc on peut faire certaines choses chez la mouche, et puis ensuite on peut trouver un système dopaminergique chez la souris, qui est quand même un mammifère, donc on se rapproche furieusement de l'homme par rapport à la mouche. Et en fait, en plus, le cerveau de la souris, la circuiterie, l'endroit où se trouvent les neurones dopaminergiques, etc., sont très semblables à l'homme, ce qui n'est pas le cas de la mouche. Et donc en fait, la souris a l'avantage d'être un animal qui se... Enfin, dirais-je, le cycle de vie, c'est 3 semaines de vie fœtale, et puis elle devient adulte en 2 mois. Et donc, on peut aussi faire des modifications génétiques, exprimer un gène, supprimer l'expression d'un gène, etc., et faire du comportement avec des comportements qui ressemblent furieusement à ce qu'on peut faire chez l'homme. Donc, par exemple, malgré les conséquences néfastes, de faire des exemples où la souris peut s'auto-injecter de la drogue en poussant sur une pédale, et mimer une conséquence néfaste, par exemple, en empêchant la souris d'avoir accès à la drogue ou ce genre de choses. Et donc c'est un modèle qui fonctionne très bien à tel titre que, par exemple, le médicament qui fonctionne le mieux contre la dépendance au tabac, qu'on appelle le Champix, ça c'est le nom commercial, mais c'est la varenicline, en fait, a été trouvé grâce et uniquement grâce à la souris.
Y a-t-il une expérience en fait qui menée avec des souris qui a pu vous marquer d'une façon ou d'une autre, peut-être par les résultats ou par autre chose en fait au final?
Ben oui, j'ai un exemple très concret qui est un exemple ce qu'on appelle serendipity ou serendipité, la chance. Où j'avais un collègue et ami qui avait inactivé un gène chez la souris qui ne trouvait pas de phénotype. Et en fait, il s'est avéré que ce gène, nous, on a fait des expériences et on a pu montrer que ce gène chez la souris supprimait complètement la dépendance. Et puis, on a fait des recherches chez l'homme et on s'est rendu compte qu'il y avait des variants dans ce gène qui protégeaient l'homme de la dépendance. Donc, on travaille, nous, personnellement, sur ce gène pour essayer de comprendre comment celui-ci fonctionne et comment il peut, à ce point, empêcher la prise de drogue.
Au tout début de l'interview, vous parliez de, et même dans votre conférence d'ailleurs, vous parliez de dépendance liée à la fois à la génétique et puis à l'environnement. Chacun dépend de son environnement et puis chacun n'a pas les mêmes génétiques. Est-ce que certaines personnes donc, naissent réellement plus vulnérables à d'autres face à l'addiction ? Tout à l'heure, enfin, au début de l'interview, vous avez expliqué que oui, mais à quel point et quelles sont vraiment les vraies différences qu'on peut retrouver d'un point de vue environnemental, et génétique ?
Alors, pour faire simple, grosso modo, 50% du risque de dépendance dépend des gènes qu'on a reçus. D'accord ? Donc, un variant, par exemple, un des récepteurs à la dopamine, puisque la dopamine est centrale, eh bien, il y a un des récepteurs qui s'appelle le récepteur D2. Souvent, le degré d'expression de ce gène, s'il est faiblement exprimé, vous êtes plus à risque de devenir dépendant. Et donc, ça, vous ne savez pas les variants génétiques que vous avez reçus de votre père ou de votre mère. Donc, ça, c'est pour 50%. Les autres 50%, c'est l'environnement. Mais l'environnement, ça joue sur la biologie. Et donc, particulièrement via ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire que dans un environnement stressant, dans un environnement, je ne sais pas moi, de parents polytoxicomanes, où il y avait des problèmes de, je sais pas moi, de ressources, d'insécurité, d'agressivité, de violence, etc., tout ça sont des marqueurs environnementaux qui marquent l'expression de gènes en modifiant, pas la séquence de l'ADN, mais la structure des chromosomes, et qui font que vous êtes plus ou moins à risque. Et donc, c'est ce combinatoire environnemental et génétique qui fait vos facteurs de risque. Est-ce que vous ne pouvez pas savoir a priori ? Donc, la personne qui fume sa première cigarette, je fais une petite parenthèse, le tabac, qui est une drogue légale, est la drogue à plus haut risque de dépendance. Donc, il y a une chance sur trois que vous deveniez dépendante au tabac si vous en fumez. Et pourtant, c'est légal. Je vous laisse réfléchir à cette question par rapport à nos politiques. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que vous n'avez aucune idée, a priori, si vous êtes à risque ou pas. Et il y a des gens qui seront incapables d'arrêter de fumer malgré le champix dont je parlais tout à l'heure, des patchs, etc. Et d'autres personnes que je connais qui ont arrêté du jour au lendemain, disant « Tiens, finalement, ça pue, c'est dégueulasse, j'ai une mauvaise haleine », et qui arrêtent du jour au lendemain. Eh bien, vous ne savez pas, a priori, de quel côté vous vous trouverez.
Est-ce qu'on peut imaginer un jour un traitement personnalisé ou des traitements personnalisés pour les addictions, aujourd'hui, à l'heure actuelle, avec nos recherches ?
Alors ça, c'est une très, très, très grande question. Donc, il faudrait d'abord qu'on comprenne comment fonctionne le moteur. D'accord ? Donc, on comprenne quels sont les gènes qui peuvent être impliqués dans la circuiterie, quelles sont les populations de neurones, comment le cerveau câblé fait que chez certaines personnes, eh ben, la nicotine, ils pourront arrêter et d'autres pas, quels sont les gènes qui sont impliqués. Et puis ça nécessiterait qu'on connaisse le génome de chaque être humain, de chaque personne, avec la compréhension de chaque gène et suivant la mutation, quel est l'effet de cette mutation chez le gène. Donc vous imaginez la combinatoire de connaissances qui sera nécessaire de faire. Mais, il ne faut pas être pessimiste pour autant, s'il s'avère qu'il y a certains gènes plus importants qu'on peut comprendre comme étant des facteurs de risque de dépendance et qu'il y a certains gènes qui peuvent avoir des rôles plus importants que d'autres, le but, c'est d'essayer de mettre à jour ces gènes-là, qui sont potentiellement, pratiquement chez tout le monde, importants, pour pouvoir les cibler par des approches pharmacologiques et diminuer ou augmenter l'expression de ce gène, ou l'empêcher de fonctionner, ou le faire mieux fonctionner, pour potentiellement moduler les déficits chez les gens qui souffrent de cette maladie.
Ici, on est en direct donc de l'émission Radio Campus. Donc c'est une radio étudiante. Donc on a une audience plutôt jeune. Je pense que tout le monde serait intéressé de savoir s'il y a une augmentation inquiétante de consommation de drogue chez les jeunes aujourd'hui. Est-ce qu'on en observe vraiment une ou pas ?
Alors, bon, chez les jeunes, le problème, c'est qu'est-ce qu'on appelle jeune ? Je vais vous donner un exemple simple, le cannabis. Je pense que la plupart de nos auditeurs ont été confrontés à l'usage de cannabis, qui est, je dirais, c'est étendu de façon nette. Le trafic a clairement augmenté. Et le risque du cannabis est particulièrement important chez les ados. Il y a deux risques. C'est qu'en fait, le cannabis et le THC, qui est la molécule active, qui est une molécule lipophile, c'est-à-dire qui aime le gras, et notre cerveau n'est pratiquement que du gras. Donc en fait, le THC s'accumule dans le cerveau et va perturber la maturation de ce qu'on appelle le cortex préfrontal, c'est-à-dire c'est derrière votre front, et qui est impliqué dans tout ce qui est prise de décision. Et donc ça amène à des ados qui ont des mauvaises prises de décision et qui vont avoir, comme en tant qu'adultes, vont devenir des gens qui ne savent pas prendre de bonnes décisions. Alors que si c'est à l'âge adulte qu'on commence à prendre du cannabis, le cortex préfrontal est maturé normalement, et dans ce cas-là, et j'insiste sur ce cas-là, le risque de dépendance chez l'adulte, donc je dis post-25 ans, est la substance qui est à moindre risque de dépendance, on est à 10%. Okay. Alors que chez les ados, c'est 18%. Donc on a pratiquement deux fois plus de risque de devenir dépendant au cannabis si on commence jeune. Autre gros risque, c'est le risque lié à la schizophrénie et donc à des épisodes psychotiques. C'est qu'en fait, la prise de cannabis descend le seuil et personne ne sait où est son seuil de psychose potentielle. Et donc, il y a des gens qui vont déclencher des épisodes psychotiques et potentiellement le devenir définitivement à cause de cette prise de cannabis. Donc ça, c'est vraiment une drogue qui est réellement problématique à l'adolescence. Alors, la cocaïne, clairement, augmentation de consommation. On en trouve de plus en plus dans les eaux usées. Donc, on fait ça à Bruxelles et autres, et on voit une explosion de la quantité de cocaïne dans les eaux usées. Donc, ce qui montre qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs, ben, c'est lié à quoi ? L'augmentation du trafic, je pense qu'il ne faut pas faire un détail. Le prix qui reste assez stable, et donc l'accessibilité, etc. Et donc la cocaïne fait partie clairement des augmentations. Les opioïdes, on ne voit pas une vraie tendance à l'augmentation, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut essayer, parce que c'est partie des drogues dont les effets néfastes sont les plus difficiles à gérer et sont les plus abominables. Le tabac, ça reste assez stable. Et l'alcool, ça reste aussi assez stable.
Pour finir l'interview, vous deviez déconstruire une idée reçue sur les addictions, quelle serait-elle ?
Eh bien, quand le patient devient indépendant, c'est un malade et il se traite dans un hôpital et pas dans une prison. Par contre, tout ce qui est lié au trafic, à l'enrichissement, etc. Ça, c'est un problème qui relève du pénal. Mais mettre des gens dépendants dans des prisons est aussi absurde que de mettre des gens qui souffrent de grippe en prison. Donc ça, je pense qu'il faut vraiment... Et ça, c'est vraiment l'idée qu'il faut déconstruire, c'est que la dépendance aux drogues est une maladie du cerveau et en aucun cas une faute morale.
Eh bien, merci beaucoup pour votre réponse et d'avoir accordé un peu de temps à Radio Campus. Merci.
Merci beaucoup Salma Menkor pour cette interview d'Alban de Kerckhoff-Dexard, on le rappelle, directeur de recherche à l'ULB en neurosciences. Vous êtes toujours dans votre émission Histoire de savoir, présentée par les étudiants en master en journalisme. Je vous propose désormais une petite respiration musicale avec une chanson pas si éloignée de notre thème. On se retrouve juste après Bob Marley, Is This Love, restez avec nous juste après ça sur Radio Campus.
table. See, I wanna love you. I wanna love and treat you. Love and treat you right. I wanna love you. Every day and every night we'll be together with the roof.
C'était Is This Love de Bob Marley. Et sur cette touche musicale, Germain, ce que je te propose, c'est qu'on se fasse un petit quiz pour voir si on est bien au point niveau addiction en Belgique.
Ouais.
Ça te va ?
C'est parti.
Allez, on y va. Alors, première question. Quelle est la drogue illégale la plus consommée en Belgique ? La cocaïne, l'ecstasy, le cannabis ou le crack ?
La plus consommée en Belgique, la cocaïne, l'ecstasy, le crack et le cannabis ?
Ouais.
Gérer le cannabis peut-être.
C'est une bonne réponse.
Ouais.
Cannabis reste de loin la drogue illégale la plus consommée en Belgique.
Ok. À toi Simon, quel pourcentage des adultes belges, donc de 18 à 64 ans, a consommé du cannabis ou en tout cas déclaré au moins une fois dans l'année ? 2%, 7%, 15% ou 25%.
18 à 64 ans ?
Ouais, de Belges qui ont déclaré avoir consommé du cannabis au moins une fois dans les 12 derniers mois.
T'as dit 12% ?
Il y a 2, 7, 15 ou 25.
Je vais dire 15.
15 c'est moins. C'est 7% des Belges adultes, donc de 18 à 64 ans, qui déclaraient avoir consommé ou fumé du cannabis dans les 12 derniers mois.
Bon, heureusement, j'ai envie de te dire.
Ouais.
Maintenant, à mon tour encore. Chez les jeunes hommes belges de 18 à 24 ans, combien ont consommé justement du cannabis durant l'année ? Est-ce que c'est une personne sur 20, une personne sur 10, une personne sur 5 ou une personne sur 2 ?
Combien de personnes ont consommé durant l'année
De 18 à 24 ans. Hein, là.
Ouais, c'est des jeunes. Peut-être une personne sur 10.
C'est un peu moins. Une sur 5.
Chez les ouais, c'est plus du coup. C'est plus de personnes. Si c'est une sur 5.
Effectivement.
C'est qu'il y a beaucoup plus de personnes. Donc c'est pas une sur 10, c'est 20% en fait.
Ouais, donc c'est environ 20%. C'est ça, t'as tout à fait raison.
Alors pour toi, à quel âge les consommateurs belges de cannabis déclarent-ils avoir commencé en moyenne ? Donc à quel âge ils ont commencé les fumeurs de cannabis en moyenne 12, 16, 19 ou 22 ans ?
Ah, je pense que 12 c'est quand même jeune, je dirais 16.
Ouais c'est 16, ouais. C'est vrai que 12 c'est un peu jeune, mais 19 c'est encore jeune et finalement c'est la bonne réponse c'est 16 ans. Donc, parmi les personnes suivies, l'âge moyen en Belgique de départ de consommation c'est 16 ans. Ouais.
Une autre petite, parmi les consommateurs réguliers de cannabis interrogés en Belgique, quelle proportion en consomme tous les jours ? 10%, 22%, 37% ou 60% ?
Le pourcentage de consommateurs qui prennent ça tous les jours ?
Tous les jours du cannabis.
Tous les jours du cannabis. Les propositions, c'était ?
10%, 22%, 37%, 60%.
Tous les jours, je dirais 20%, 22%.
C'est plus, hein.
C'est plus.
C'est plus. Environ 37,5% des personnes ayant consommé du cannabis récemment disent en consommer quotidiennement.
Alors pour toi, Simon, vrai ou faux, est-ce que la consommation de cocaïne est en augmentation en Belgique ? Vrai ou faux, la consommation de cocaïne, donc drogue dure, est en augmentation en Belgique ?
Ah, pour moi, c'est en augmentation, c'est vrai, hein.
Ouais, c'est vrai.
C'est ça.
Malheureusement, ouais. Le centre belge de recherche Sciensano remarque une augmentation de consommation de cocaïne ces dernières années, effectivement.
Bon, et maintenant plus spécifiquement, Germain, on sort un peu du thème. Est-ce que tu sais comment marche une consultation en tant que patient quand on est justement addict ?
Non, pas spécialement. Bah, faudrait demander à un professionnel, un addictologue peut-être, comment ça se passe.
Tout à fait. Et bah, justement, notre merveilleuse journaliste Salma Menkor a eu Mélissa Van Uffel, psychologue spécialiste en addictologie au téléphone, pour quelques éclaircissements.
Donc comment se passe concrètement en fait, une consultation avec un patient ?
Donc concrètement, quand il vient me voir, c'est déjà qu'il a envie de changer quelque chose. Ou alors qu'une personne lui a fait remarquer qu'il y a un problème au niveau de sa consommation. Donc l'idée, quand il vient me voir pour la première fois, c'est vraiment d'abord de faire le point sur sa situation. De savoir quel type de consommation il consomme. Est-ce que c'est plutôt de l'alcool ? Est-ce que c'est plutôt d'autres substances ? Si c'est de l'alcool, c'est aussi de savoir quel type d'alcool. Est-ce que c'est plutôt de l'alcool fort, du vin, de la bière? Ensuite, on part aussi au niveau des quantités. Est-ce que c'est plutôt une consommation qui est plutôt tous les jours? Est-ce que c'est une consommation qui est exclusivement le week-end? Et aussi au niveau quantité, est-ce qu'on part sur une bouteille de vin? Est-ce qu'on part sur 10 bières? Donc, on questionne tout ça. On questionne aussi à quel moment la consommation est présente. Est-ce que c'est plutôt une consommation qui est présente quand on reçoit des amis ou quand il y a un dîner d'affaires? Ou est-ce que c'est plutôt une consommation qui est présente le soir à la fin de la journée, se dire, OK, j'ai absolument besoin de mon verre pour me décompresser un petit peu, pour me détendre. Donc, c'est vrai que toutes ces questions-là, vous nous aiguillez un petit peu sur le type de consommation que le patient présente. Est-ce que c'est plutôt une consommation qui est dite sociale ou est-ce que c'est plutôt une consommation qui, derrière, cache quand même plutôt des affects un peu anxio-dépressifs et qu'on se dit, OK, il y a aussi tout un travail à ce niveau-là à faire. Donc, tout ça, on questionne aussi un petit peu. On questionne aussi s'il y a des membres de la famille qui présentent aussi certaines addictions. Parce que c'est vrai que ça a certains facteurs aussi génétiques qu'on retrouve aussi assez présents. Donc voilà, est-ce qu'ils ont déjà eu un suivi aussi dans le passé? Est-ce qu'ils ont déjà été suivis, peut-être hospitalisés? Est-ce qu'ils ont déjà fait une cure ou quoi que ce soit? Donc tout ça, ce sont vraiment les questions qu'on me pose de base, les premières entretiens. Et ensuite, la question. Non, allez-y.
Non,
La
non,
question
continue.
essentielle aussi, c'est de savoir quelles sont leurs attentes. Est-ce qu'ils ont une attente plutôt de, voilà, ils cherchent de l'abstinence totale ou est-ce qu'ils cherchent plutôt de réduire leur consommation et avoir une consommation dit contrôlée? Donc, tout ça, c'est intéressant aussi de savoir.
Et dans votre pratique, en fait, vous parlez de questionnement, mais quels sont en fait les facteurs qui reviennent le plus souvent lorsque vous parlez avec un patient? Est-ce qu'on parle de plus de stress, de traumatisme, d'isolement?
Mais oui, c'est principalement ça, hein. Donc, il y a beaucoup le stress, il y a beaucoup l'isolement aussi. C'est beaucoup de femmes et d'hommes qui rentrent chez eux après leur journée de travail et qui, au final, sont seuls. Et donc, voilà, la solitude s'apaise et donc ils vont se réfugier plutôt dans l'alcool. Beaucoup de personnes aussi qui sont très investies dans leur travail et donc, voilà, quand elles rentrent chez elles, ont besoin de souffler, de décompresser un petit peu et donc vont se tourner vers l'alcool. Et puis, évidemment, il y a tout le reste. Voilà. Il y a des personnes qui, de nature, sont déjà anxieuses, sont déjà un petit peu, ont un facteur, déjà une sensibilité plutôt anxio-dépressive, et qui donc ont besoin aussi d'avoir un moyen de se détendre, de se relaxer voilà, et de boire un petit peu.
On parle souvent de craving. Donc
Oui,
c'est en fait une envie irrépressible de
c'est ça,
consommer.
de consommer.
Ouais, c'est ça. Donc comment les patients en fait décrivent cette sensation?
Le craving, alors, il faut savoir déjà que c'est assez bref, hein, le craving. Donc, quand il y a un craving qui survient, en moyenne, il dure entre 10 et 20 minutes. Donc, c'est vraiment très, très court. Et le craving, on peut facilement, voilà, le dépasser. Dans le sens, si on arrive à bifurquer notre esprit sur autre chose à l'instant T, le craving passe et on ne s'en sera même pas rendu compte. Donc, les patients, comment ils décrivent le craving? Comme vous l'avez dit, c'est vraiment une envie irrépressible de consommer. C'est physique, dans le sens où, c'est autant physique et mental. C'est vrai qu'on va avoir cette envie, on va avoir le cerveau, le petit diable un petit peu qui va nous dire bois, 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 tu en as envie, tu en as besoin, fais-le, ça va te faire du bien. Physiquement, on va se sentir très agité, palpitations aussi, on va sentir vraiment que notre corps n'est pas bien du tout. Et donc, tous ces symptômes-là vont nous pousser à boire. Parce qu'on se dit, OK, là, je suis pas bien, donc c'est bon, je craque, je bois un verre, histoire de me sentir mieux. Moi, ce que je dis toujours à mes patients, dans ces moments-là, quand vous sentez que le craving commence à venir, que votre cerveau vient un peu vous titiller, à vous dire bois, bois, ça va te faire du bien, on bifurque l'esprit vers autre chose. On va prendre un bon bain, on prend une douche, on sort le chien, on appelle sa mère, une meilleure amie. On essaie en tout cas de faire quelque chose qui va faire que, OK, le craving est passé et on n'a pas succombé. Attention aussi que le craving peut arriver à tout moment. On peut être abstinent depuis un an, même plusieurs années, il peut encore y avoir des cravings. Donc, beaucoup de patients aussi ont cette fausse idée de se dire, OK, le craving, ici, ça fait 3 mois que je suis abstinent, j'ai pas eu de craving, c'est bon, je suis bien, quoi. Pas du tout, ça peut venir encore par après.
Et est-ce qu'il y a des traitements aujourd'hui ou des accompagnements qui fonctionnent pour les patients?
Oui, donc il y a différents médicaments qui fonctionnent. La seule chose, c'est que ce n'est pas des médicaments qui sont. Voilà, ce n'est pas les meilleurs médicaments, c'est des médicaments qui sont quand même un peu forts. Donc, c'est vrai que tous les patients ne sont pas forcément ouverts à l'idée de prendre ce type de médicaments. C'est des médicaments aussi qui ne sont pas pour sur une très longue période. Donc, on peut les prendre 1, 2, 3 ans maximum, mais ce n'est pas des médicaments qu'on va prendre à vie. Donc, à vie, ça sera plutôt des médicaments qui vont toucher plutôt à la source de la consommation, plutôt des antidépresseurs ou des anxiolytiques ou des somnifères, parce que j'ai beaucoup de patients aussi qui consomment parce qu'ils n'arrivent pas à dormir. Donc, les traitements qui vont être plus sur le long terme, ça va plus être des médicaments qui vont toucher un petit peu à l'origine de la consommation. Maintenant, évidemment, il existe des médicaments qui ont un effet plutôt de diminuer l'envie de boire. Ou un effet où on sait que, par exemple, il y a l'Antabuse, qui est vraiment très connu en ce moment. L'Antabuse, lui, par exemple, on sait que c'est interdit de boire avec ce médicament. Donc, en fait, le médicament fait plus effet de barrière, dans le sens où, OK, je prends ce médicament, je sais que je ne peux pas boire, parce que si je bois, ça peut vraiment carrément avoir de sacrés symptômes, et ça peut être mortel si on boit une très grosse quantité avec ce type de médicament. Donc les médicaments, au début en tout cas, ça a vraiment plus un effet de barrière, quoi. De gendarme un petit peu qui se met devant et qui dit « Ok, non, tu ne me vois pas ». Mais sinon, il y a tout ce qui est psychothérapie aussi. L'aider un petit peu, trouver la source de la consommation, qu'est-ce qui favorise la consommation. Aider les patients à trouver de nouvelles occupations aussi, à instaurer une nouvelle routine. Donc ça aide aussi pas mal.
Vous disiez il y a quelques minutes que le craving pouvait revenir
Oui.
même après 2, 3, 4 mois d'abstinence, voire des années. Du coup, est-ce qu'on peut réellement en fait guérir d'une addiction ou est-ce que c'est quelque chose qui est présent toute la vie?
Mais l'addiction reste, d'une certaine manière, restera présente toute la vie parce qu'on aura toujours ce terrain qui sera un peu sensible. On peut guérir de l'addiction dans le sens où on a des personnes qui sont abstinentes depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans. Donc on peut guérir de l'addiction. Maintenant, on aura toujours cette sensibilité. Des personnes qui sont abstinentes depuis très longtemps, ben, savent un petit peu, connaissent un peu, elles savent que, tiens, je sais que dans ce type de soirée, quand il y a de la consommation d'alcool, ben, je sais que je suis un peu plus fébrile. Maintenant, il y a des personnes qui sont abstinentes pendant 5 ans et qui, après 5 ans, arrivent à seulement boire un verre ou lors d'événements particuliers comme Nouvel An, anniversaire ou soir au travail, et ils arrivent à s'y tenir aussi. Mais c'est vrai qu'on garde toujours cette sensibilité, cette certaine fragilité en rapport avec l'alcool.
Et au-delà des médicaments, donc de la médecine et de la psychothérapie, qu'est-ce qui
Oui.
peut réellement aider une personne à sortir d'une addiction?
Mais il y a déjà la volonté. Donc ça, c'est super important, mais ça, c'est pour toutes les addictions, c'est pas que pour l'alcool. Pour toutes les addictions, il faut réellement la volonté, il faut réellement se sentir prêt. Il faut qu'au moment aussi de la vie de la personne, ça doit être le bon moment aussi. Parce qu'il y a certains moments où, au final, à certains de mes patients, je leur dis, OK, mais là, l'abstinence, c'est pas possible, parce que c'est pas le bon moment. Vous venez de perdre votre travail, l'un de vos parents est décédé ou autre, et c'est pas le bon moment pour viser l'abstinence. Pourquoi? Parce que psychologiquement, la personne est trop fragile. Donc, il faut déjà avoir une certaine volonté, il faut qu'au niveau de la vie soit assez stable et structurée pour se dire, OK, je peux tenter l'abstinence. Et il faut aussi que la personne, ben, oui, se sente prête et soit assez forte psychologiquement, mentalement, pour pouvoir l'assumer. Parce que c'est difficile, l'abstinence, surtout au début. Parce que ça change pas mal de choses. On avait certaines habitudes, certains rituels. On évite aussi d'aller à des dîners d'amis, de famille, parce qu'on sait qu'au début, ça va être difficile. C'est difficile aussi le regard des autres, parce qu'on est d'un coup, c'est « Ah, ben, tu ne bois plus. »« Ah, ben, pourquoi tu ne bois pas ?» Enfin, et en Belgique, malheureusement, on est dans une ville où on doit limite plus se justifier de ne pas boire que de boire. Donc, c'est vrai que ça, le regard des autres est très difficile pour les personnes aussi qui tentent l'abstinence au début. Donc, une fois qu'on est décidé, une fois qu'on est assez fort psychologiquement et qu'on a tout le soutien autour de nous, c'est vrai que soutien, c'est d'avoir aussi des personnes, notre compagnon, notre compagne, nos enfants, père, mère, amis, qui nous soutiennent aussi dans cette démarche, qui valorisent aussi ça, qui renvoient à la personne aussi les changements qu'il y a. Ah, tiens, Je trouve que tu es beaucoup moins irritable depuis que tu ne me vois plus. Je trouve que tu prends beaucoup plus d'initiatives. Enfin, tout ça, ça favorise aussi l'arrêt de la consommation, pardon, et ça va maintenir l'abstinence aussi. Et il est clair qu'avoir un suivi sur le côté, parce que moi, dans mes suivis, la majorité de ce que je fais, c'est vraiment les valoriser. Je les pousse, je les encourage. Donc tout ça, vraiment, ça leur fait du bien d'avoir cet espace-là. Mais il est clair qu'il faut les deux versants. Il faut se sentir prêt et être assez armé psychologiquement pour pouvoir l'assumer. Et à la fois, il faut être soutenu derrière pour lorsqu'on se sent un petit peu plus fébrile, ben OK, on a quelqu'un qui va nous pousser et nous aider à se remettre bien, quoi.
Et pour finir en fait cette interview, donc nous on sait que vous accompagnez des personnes qui sont confrontées à des situations très difficiles, mais est-ce qu'il y a un témoignage, une rencontre ou un parcours qui vous a particulièrement marqué et qui pourrait sonner la fin de cette
Cette interview?
interview pour l'émission Histoire de savoir de
Okay.
notre Radio Campus?
Mais il y a plusieurs patients hein, qui m'interpellent. Moi, j'ai pas forcément un cas particulier. Moi, ce qui m'interpelle le plus et ce à quoi je suis le plus confrontée, c'est souvent la solitude en fait, des patients. La solitude des patients et à laquelle ils pensent trouver une présence, ils pensent trouver quelque chose en alcool. Dans le sens où l'alcool, en fait, diminue le sentiment de
L'alcool ou la drogue?
solitude. L'alcool ou la drogue, évidemment,
Oui.
toute la substance va diminuer ce sentiment. Et donc, voilà, ça va les aider à supporter leur vie actuelle, ça va les aider à supporter leur soirée hors du travail quand ils sont tout seuls chez eux et totalement seuls. Donc, c'est plus ça qui m'interroge et c'est plus ça qui reflète un petit peu la réalité du terrain. C'est que dans le fond, l'alcool prend une très grande place. Et ce qui est plus frappant, c'est qu'on commence à boire parce qu'on est très isolé, très seul, mais c'est une spirale infernale parce que l'alcool va nous isoler encore plus. Et donc, dans le fond, ça ne répond pas du tout à nos besoins. Et c'est vrai qu'il est important de dire ça aussi, c'est que on a toujours l'impression les premiers verres, comme les premières substances, hein, nous soulagent un petit peu, répondent un petit peu à un certain manque, à un certain besoin, nous mettent un petit peu dans une certaine bulle, dans un certain confort, mais ce n'est que le passager. Parce qu'après, les verres suivants ou les consommations suivantes ben, vont faire que aggraver, augmenter notre mal-être de départ. Donc, c'est vrai qu'à la fois, l'alcool ne soulage pas, et comme toutes les substances. Mais ça, c'est le principe même de l'addiction, et c'est ça qui est difficile. C'est qu'à la fois, on a l'impression que ça nous fait du bien, mais qu'à la fois, ça nous fait du mal. Et c'est difficile de s'en sortir. Mais à la fois, quand on est décidé, et quand on a la volonté et quand on a l'entourage autour de nous qui sommes là pour nous soutenir, c'est totalement faisable. Et à la fois, il ne faut pas que ça définisse la personne qu'on est et que ça ne définisse pas non plus tout le reste de notre vie. On peut avoir un passage où on a succombé à certaines addictions, mais ça ne doit pas définir toute la personne qu'on est.
Bah écoutez, merci beaucoup pour votre intervention et pour le
Bonne
temps
journée.
accordé à l'émission Radio Campus.
Avec
Je
plaisir.
pense.
C'était Mélissa Van Nuffel au micro de Salma Menkor. Voilà qui referme notre émission. Merci Simon d'avoir co-présenté cette émission avec moi.
Merci à toi Germain. J'en profite juste un petit dernier mot pour vous dire qu'il existe une ligne d'écoute pour des conseils ou du soutien au 02 227 52 52.
02 227 52 52. On a noté. Merci à notre journaliste Salma Menkor qui a réalisé les interviews des experts qui ont appuyé notre émission. Merci à Alban de Kerckhove d'Exard et Mélissa Van Nuffel qui ont répondu à nos questions. Et pour terminer, merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis tout au long de notre émission et à très vite sur les antennes de Radio Campus.